La Voix des Savoirs, l'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Vous trouvez que les scientifiques sont trop sérieux, ennuyeux ? Alors laissez-nous vous révéler tout le potentiel humoristique de nos chercheurs et chercheuses. Si vous êtes déjà tombé sur un article de presse relayant une étude scientifique et que votre réaction a été « Mais qui a financé ça ?» ou « Mais à quoi ça sert ?» ou « Non, mais c'est une blague !» vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des expériences scientifiques loufoques ou absurdes, mais parfois très utiles. Bienvenue dans l'émission du Labo des Savoirs spéciale « Poisson d'avril ». Pour cette émission magazine du Labo des Savoirs, nous serons accompagnés de bénévoles incroyables. En plateau, vous entendrez Aurore qui nous a préparé un quiz qui ponctuera cette émission. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Pierre qui a découvert un domaine un peu fumeux, la cryptozoologie. Tu nous en parleras un petit peu.
Et oui, bonjour.
Victor qui nous parlera de comportement d'empathie chez les humains et de super-héros.
Et bonjour.
Cécile qui était intéressée par nos odeurs d'urine.
Bonjour.
Jérémy qui nous parlera de gaufres et de géométrie, oui oui c'est possible.
Bonjour, bonjour.
Adam qui a décrypté certaines expériences scientifiques dans des œuvres de fiction au cinéma. Et enfin pour ma part, je vous parlerai de saumon et de statistiques. Une autre bénévole, Elia, à distance, nous parlera d'hippocampe et de mémoire. Oui oui, je vous assure, il y a un lien. Et nous sommes aussi en présence d'Ilona, venue assister à l'émission.
Le Labo des Savoirs, l'émission activatrice de Synapse, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur les ondes et en podcast.
C'était en 2024. J'entends parler des spaghettis les plus fins du monde qui ont été inventés par des chimistes britanniques de UCL, University College of London. Des nanopâtes, encore plus fins que les cheveux d'ange pour vous donner une échelle. Évidemment, premier réflexe, mais pourquoi ? En science, on se dit souvent « et pourquoi pas, justement ?» Les découvertes scientifiques arrivent souvent grâce à la curiosité, l'audace et beaucoup d'inventivité. En réalité, les nanopâtes, ce sont plutôt des nanofibres. Et le fait de pouvoir en faire des si fines et si solides à partir de farine de blé, ça pourrait être utile pour créer des emballages alimentaires qui se décomposeront, pas comme le plastique. Parfois, il faut user de son esprit critique pour aller au-delà des titres qui ne demandent que le buzz. En réalité, des expériences comme ça, plus que surprenantes, il y en a énormément. Et pour beaucoup, on n'en entend jamais parler dans les diffusions auprès du grand public. Heureusement, depuis 1991, des prix existent pour leur rendre hommage. On parle de prix Ig Nobel. Aurore, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ?
Oui, alors les prix Ig Nobel, ce sont des récompenses parodiques du prix Nobel. Il s'agit d'un jeu de mots entre prix Nobel et l'adjectif ignoble en anglais. Ils sont décernés chaque année à 10 recherches scientifiques depuis 1991. Et ce prix a progressivement gagné en popularité avec, par exemple, 9000 nominations recensées rien que pour 2023. Plusieurs chercheurs estiment même que cette récompense a propulsé leur carrière en leur permettant d'atteindre un public plus large. Alors, l'objectif de ces prix est de, je cite, « récompenser les réalisations qui font d'abord rire les gens, puis qui les font réfléchir ». Ces prix sont également utilisés pour souligner que même les recherches, paraissant insolites ou absurdes, peuvent apporter des connaissances utiles. Elles sont destinées à éveiller la curiosité du public pour la science en général. Les personnes qui sont pressenties pour recevoir le prix Ig Nobel sont contactées et en principe, il n'est décerné qu'avec leur accord. Il y a ensuite traditionnellement une cérémonie de remise des prix à Harvard, puis une série de conférences publiques au MIT. À partir de cette année, 2026, la cérémonie sera déplacée en Europe car les organisateurs craignent pour la sécurité des chercheurs étrangers qui entreraient aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Je pense que c'est important de le dire. Pour aller sur quelque chose de plus léger, je vais vous poser la première question du quiz. Combien la France a-t-elle reçu d'Ig Nobel, soit en tant que lauréate, soit en tant que co-autrice depuis le début? 7, 11 ou 14?
Donc depuis 91.
Depuis 91.
Allez, j'ai envie de dire 14.
Alors, c'était bien 14. Et quand on pense que 350 prix ont été décernés depuis 91, nos fiers chercheurs français ont ainsi pu, entre autres, démontrer ou contribuer à démontrer que les puces qui vivent sur un chien peuvent sauter plus haut que les puces qui vivent sur un chat, que certaines personnes seraient physiquement capables de courir sur la surface d'un étang si celui-ci était sur la Lune. Ils ont également mesuré l'asymétrie de la température du scrotum chez les facteurs nus ou habillés en France.
Quoi ?
Je vous laisse un peu réagir. Et également, ils ont étudié si les chats étaient ou non liquides.
Mais que d'inventivité, j'adore. J'ai vraiment hâte de la suite de ce quiz que l'on va poursuivre tout au long de cette émission. C'était un petit échauffement. C'était en 2024. J'entends parler des spaghettis les plus fins du monde qui ont été inventés par des chimistes britanniques de UCL. Je crois que j'ai déjà oublié le début de cette émission. J'ai l'impression d'être un peu un poisson rouge en ce moment. Elia, est-ce qu'il n'est pas arrivé la même chose à la personne dont tu as retracé la vie dans ta chronique ?
Eh oui, Julie. Aujourd'hui, à l'occasion du 1er avril, nous allons bien parler poisson, et plus précisément d'hippocampe. Si vous ne le saviez pas, l'hippocampe est bien un poisson. Mais ici, nous allons parler de celui, ou plutôt de ceux, qui se trouvent dans le lobe temporal des mammifères, dont les humains font partie. En effet, les hippocampes tiennent leur petit nom de leur forme qui rappelle le célèbre cheval des mers.
Mais à quoi ils servent exactement ?
Je vais garder le mystère encore quelques minutes pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore. Vous êtes-vous déjà demandé comment nous avions découvert la fonction des différentes parties du cerveau, et plus précisément de toutes les structures qui le constituent ? Eh bien, comme beaucoup de découvertes scientifiques, c'était parfois par le hasard.
Et là, dans ce cas-là, le hasard pour découvrir les hippocampes, ça veut dire quoi ?
Alors, tout commence en 1926 à Manchester. Henri Gustave Moléson, plus connu sous son pseudonyme HM, né aux États-Unis. Vers l'âge de 10 ans, il commence à vivre ses premières crises d'épilepsie, toutefois encore relativement mineures.
Alors, juste une pause, 30 secondes, est-ce que tu peux nous faire un petit aparté sur ce qu'est l'épilepsie ?
Alors, déjà, il faut savoir que le cerveau fonctionne grâce à une activité électrique, qui permet le fonctionnement des neurones. C'est grâce à elle que les informations sont transmises dans le système nerveux. Quand quelqu'un est épileptique, il a en réalité une prédisposition à ses crises épileptiques, c'est-à-dire une tendance à subir des décharges d'activité électrique anormale qui provoquent des convulsions, souvent assez impressionnantes vues de l'extérieur d'ailleurs. Elles peuvent être provoquées par de la fatigue, de l'angoisse, chez certains et certaines par des flashs lumineux répétés. Bref, tout plein de choses en fait. Le problème, c'est que chez les personnes insensibles au traitement, les crises fréquentes peuvent occasionner des dégâts. Ces crises, elles peuvent être donc partielles, limitées à une région du cerveau, ou généralisées quand elles impliquent les deux hémisphères de manière simultanée. Dans le cas d'HM, nous étions dans le premier cas, c'est-à-dire des crises localisées dans une zone bien précise.
Et laisse-moi deviner, cette zone bien précise, c'était ses hippocampes.
Bingo ! En effet, le foyer épileptique d'HM était bien présent sur la région des hippocampes, car on en a bien deux, un sur chaque hémisphère du cerveau. Reprenons donc notre histoire. À partir de ses 16 ans, les crises s'intensifient et les médicaments anti-épileptiques ne se révèlent pas d'une grande efficacité. C'est donc à l'âge de 27 ans, en 1953, que le neurochirurgien William Beecher Scoville lui offre la possibilité d'effectuer une procédure expérimentale qui n'avait été jusqu'alors pratiquée qu'une poignée de fois, lui ôter ses hippocampes. HM accepte et survit à l'opération. Par ailleurs, l'objectif principal de l'opération est atteint. Le foyer épileptique a été retiré en grande partie et les crises sont fortement ralenties. Hourra ! Mais c'était sans compter un effet secondaire majeur de l'opération. En effet, à cette époque-là, on ne connaissait pas vraiment le rôle des hippocampes.
Et oui, parce que j'imagine que si on a des choses comme ça dans notre cerveau, c'est que ça servait à quelque chose. Et du coup, à quoi ça sert, les hippocampes ?
Eh bien, ça sert principalement à la mémoire. En effet, les hippocampes ont pour fonction principale la capacité mémorielle, mais pas seulement.
Mais du coup, ça veut dire qu'à son réveil, il n'avait plus du tout de mémoire ?
Eh bien, pas exactement. En fait, HM souffrait de ce qu'on appelle une amnésie entérograde totale, c'est-à-dire qu'il était incapable de mémoriser ce qui venait de se produire, et plus globalement, tout ce qui datait d'après son opération. Les hippocampes permettent également l'enregistrement des nouveaux souvenirs. C'est comme si son cerveau vivait des boucles successives d'une trentaine de secondes, en oubliant inévitablement celles qui venaient tout juste d'avoir lieu. En somme, il avait une mémoire très proche du cliché de la mémoire du poisson rouge. Il souffrait également d'une amnésie rétrograde partielle, puisqu'il ne pouvait pas non plus se souvenir de ce qui s'était passé juste avant son opération. Par contre, HM pouvait se rappeler d'événements très anciens, comme de souvenirs très vifs qui dataient de son enfance, et plus particulièrement de son histoire personnelle. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas très pratique d'oublier en permanence ce que l'on vient de vivre. La qualité de vie d'HM en a donc été fortement affectée, et il lui était à présent impossible de fonctionner de manière complètement autonome.
Ça devait être terrible, du coup, pour vivre. Est-ce qu'il en avait conscience, lui ?
Alors oui, il en avait conscience et il arrive à se souvenir qu'il avait un trouble de la mémoire. Il était particulièrement actif quant à sa volonté de récupérer ce qu'il avait pu oublier et faisait tous les jours des jeux dans cet objectif ainsi que des mots croisés. Il essayait de raconter des événements récents, mais ses efforts étaient en majorité vains. Cependant, à de très rares occasions, Hachem pouvait reprendre le fil d'une conversation passée récente et il fut même capable de dessiner un plan de la maison dans laquelle il vivait. Ces faits suggèrent que grâce au cortex, souvent appelé la matière grise qui se situe originellement plus en surface vis-à-vis des hippocampes, certaines capacités mémorielles pouvaient encore subsister. Malgré tout ça, Hachem gardait une personnalité forte et enjouée. La professeure Corkin, qui l'a suivi médicalement pendant presque toute sa vie après l'opération, déclarait à son sujet qu'il avait des valeurs et un grand sens de l'humour. Elle considère qu'à lui seul, Hachem a permis une compréhension beaucoup plus précise de la mémoire et de son fonctionnement que toutes les découvertes du siècle le précédent.
Ah oui, à ce point-là ?
Et oui, car il était volontaire pour participer aux recherches qui permettaient de mieux comprendre son cas. Ainsi, il est encore à ce jour l'un des patients qui a été le plus étudié de son vivant, avec plus d'une centaine de chercheurs qui se sont retrouvés à son chevet. Henri Molaison est décédé en 2008, à l'âge de 82 ans, et a donc contribué à plus de 50 ans de recherche en neurosciences. Il a d'ailleurs choisi de léguer son cerveau à la science, qui a finalement été congelé et découpé en pas moins de 2401 minuscules tranches afin d'être modélisé à l'université de San Diego. Encore aujourd'hui, son cas est étudié partout dans le monde et il reste un des patients les plus marquants de l'histoire des sciences cognitives.
Et ben, du coup, on remercie ce fameux Henri Molaison et surtout merci Elia pour ce poisson d'avril, ou devrais-je dire du coup cette hippocampe d'avril. Et c'est à mon tour de vous parler poisson. Enfin, promis, ensuite plus de blagues sur le poisson d'avril. Hein. Plus précisément, j'ai sélectionné de mon côté une étude que j'avais lue en licence, donc il y a un petit moment maintenant, dans un cours de neuroimagerie. Donc la neuroimagerie, c'est un ensemble de techniques mesurant indirectement les changements d'activité cérébrale. Et donc là, en l'occurrence, c'est une équipe de recherche de l'Université de Californie qui publie un article en 2009. Et ils publient cet article après avoir passé un saumon dans un IRM. Et d'ailleurs, ça leur a valu un prix Ig Nobel en 2012. Mais pourquoi diable passer un saumon dans un IRM, me direz-vous ? Comme d'habitude, pour démontrer un problème. Et là, en l'occurrence, un problème de statistique. Ah, beaucoup moins drôle d'un coup. À l'époque, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc une technique de neuroimagerie, est encore assez récente. Elle mesure indirectement l'activité cérébrale en détectant les variations d'oxygénation du sang. Donc quand une zone est active, elle consomme beaucoup d'oxygène et c'est ce signal, cette variation, qu'on appelle signal BOLD, B-O-L-D, que l'on cherche à détecter. Et là, Bennett et ses collègues ont eu une idée saugrenue. Et si on regardait l'activation cérébrale d'un saumon pendant qu'on lui montre des photos humains exprimant des émotions, comme la joie, la colère, pour mesurer son empathie. Sauf que du coup, le saumon était mort. Hein. Pour tester cela en statistique, on oppose toujours deux hypothèses. L'hypothèse nulle, qu'on appelle H0, donc là, il ne se passe rien, le saumon mort ne réagit pas aux photos. Ou l'hypothèse alternative qu'on appelle H1, il se passe quelque chose, donc là en l'occurrence, le saumon montre une activité cérébrale. Le but de tout ça est de vérifier si les données nous permettent de rejeter l'hypothèse nulle, donc H0, au profit de H1, l'hypothèse alternative. Sauf qu'en neuroimagerie, c'est un peu particulier. On analyse 130 000 voxels en même temps. Un voxel, c'est un petit cube 3D du cerveau. Donc pour chaque petit cube, on fait le test. On compare le signal pendant une tâche, comme par exemple regarder une photo émotionnelle, avec le signal au repos. Ça nous permet de savoir s'il se passe quelque chose ou si justement il ne se passe rien. Sauf que 130 000 voxels, ça fait un sacré paquet de tests. Et donc même si l'hypothèse nulle est vraie, donc même s'il ne se passe rien, le hasard peut faire quand même en sorte qu'on détecte de l'activité par erreur. Et ces erreurs, on les appelle des faux positifs. On croit avoir trouvé un effet alors qu'il n'y en a pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le saumon. L'équipe de recherche a trouvé de l'activité alors que le saumon était bien mort. Ce résultat absurde illustre un problème majeur. Si on ne corrige pas les analyses statistiques pour tenir compte du nombre de comparaisons, on risque de publier des conclusions fausses. Dans leur article, Bennett et ses collègues montrent que des méthodes existent pour éviter ces pièges. Et du coup, cette étude est devenue un peu culte parce qu'elle rappelle une vérité cruciale. La science repose sur la rigueur. Une expérience bien conçue, c'est pas seulement une bonne idée, mais c'est aussi une analyse statistique solide. Dans la continuité de cet angle de méthodologie scientifique, Pierre, tu voulais absolument nous expliquer ce qui relie le monstre du Loch Ness à l'okapi, Bigfoot, le singe géant, au sélacanthe, et le serpent de mer au Sao La du Vietnam. Mais j'ai du mal à voir ce lien.
Eh ben, ce qui relie ces créatures mythiques aux animaux bien réels, c'est la cryptozoologie. Un nom cryptique pour une activité qui l'est tout autant. Partons du commencement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez reconnu le mot zoologie, qui est formé par le grec ancien zoion, qui veut dire animal, et logia, l'étude. Étude des animaux, donc crypto, animaux. Cryptos, ça veut dire caché. L'étude et la recherche des animaux cachés, c'est donc ça, la cryptozoologie. Dans le livre « À la recherche des animaux mystérieux », paru en 2017 aux éditions du Cavalier Bleu, le paléontologue français Éric Buffeteau décrit cette discipline relativement récente. Son fondateur attitré étant le zoologue et écrivain belge Bernard Heuvelmans, qui reprend le terme cryptozoologie au biologiste Ivan Sanderson dans les années 1940. Heuvelmans a passé sa vie à chercher le Yeti en Himalaya, le Mokele Mbembe en Afrique équatoriale et le monstre du Loch Ness en Écosse. Évidemment, monstre du Loch Ness, Yeti, Bigfoot et compagnie, ça fait plus penser à des histoires qu'on se raconte au coin du feu qu'à une pratique scientifique. Et en un sens, vous auriez raison de penser ça. De nos jours, cette pratique, elle est considérée comme une pseudo-science par une partie de la communauté scientifique et particulièrement les zoologistes. Ce petit mot rigolo qu'on met devant le mot très sérieux de science, pseudo, signifie qu'elle a l'air d'être une pratique scientifique, mais qu'en fait, elle n'en respecte pas les codes. Pour faire court, de nombreuses publications ont tenté de dresser une liste de ce qui n'était pas scientifique. Voici quelques critères qui peuvent définir une pseudo-science. En premier, la croyance aveugle dans une ou plusieurs personnes qui ont l'autorité, qui savent. En deuxième, des expérimentations impossibles à répéter par d'autres scientifiques. En trois, le cherry picking, ou le fait de choisir les résultats qui vont forcément dans notre sens. En quatre, une aversion à tester une théorie, même si c'est possible. Et en cinq, une propension à écarter toute preuve qui ne nous arrange pas. C'est un peu le biais de confirmation.
Et du coup, là, je vois bien la différence entre les pseudosciences et les sciences. Mais Bernard Heuvelmans, tu nous as dit au début de ta chronique qu'il était zoologue de formation, si je ne me trompe pas. Mais donc, ça veut dire qu'il n'appliquait pas la méthode scientifique qu'il avait appris.
Ouais, effectivement, c'est un peu plus complexe que prévu. La différence entre la cryptozoologie et la zoologie, c'est que pour placer une nouvelle espèce dans l'arbre de l'évolution, la première se base sur des récits sans avoir jamais vu l'espèce en question. Tandis que la deuxième cherche consciencieusement des traces, des ADN, du fossile, des vidéos, des photos, etc. Des vraies preuves. Que ce soit pour les amateurs ou les chercheuses professionnelles de bestioles imaginaires, la méthode scientifique est une béquille et pas un moyen. Pour preuve, en 1975, Peter Scott et Robert Rhines ont publié dans la prestigieuse revue scientifique Nature une photo excessivement floue d'une supposée nageoire du monstre du Loch Ness, accompagnée d'un nom latin « Nessiteras rhombopteryx ». Le but des deux scientifiques, avec ce nom officiel, c'était de classer Nessie dans les espèces à protéger. À partir d'une photo floue, vous me direz, c'est quand même très limite.
Et donc là, tu nous parles depuis tout à l'heure de Nessie, de Bigfoot, de pseudosciences un peu fumeuses là en cryptozoologie, mais au tout début, tu nous as dit qu'il y avait un lien avec l'okapi et d'autres vrais animaux pour le coup.
Eh oui, bien vu, bien vu. Je vais vous parler de ça. Il fallait juste un peu de contexte. En fait, la cryptozoologie a réussi à trouver des espèces nouvelles, jusque-là inconnues. L'exemple de l'okapi est saisissant. Si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de croisement entre une girafe et un zèbre. Vers la fin du XVIIIe siècle, des rumeurs courent sur un animal mystérieux qui aurait élu domicile dans les forêts du Congo. Les pygmées sur place décrivent ce qui ressemble à un âne. On trouve une lanière de sac faite avec sa peau qui ressemble à celle du zèbre. Et plus tard, on s'imagine que son crâne est proche de celui de la girafe. Certains scientifiques pensent qu'il s'agit d'un lointain parent d'un genre de girafidés fossile appelé Eladotherium. C'est un vrai puzzle en fait. En alignant toutes les pièces et avec des recherches plus approfondies, il s'agissait effectivement d'une espèce de girafidée, dont le nom, okapi, est emprunté au pygmée qui l'appelait ainsi. Il aura fallu attendre 1901 pour décrire ce, et j'ouvre les guillemets, « nouvel animal » dans les classifications officielles. Les exemples d'enquêtes cryptozoologiques qui finissent en découverte zoologique, il y en a une poignée. Avec pêle-mêle le tapir malais, le sélacanthe ou le plus récent, le saola du Vietnam. C'est une sorte d'antilope. Pour paraphraser Éric Buffeteau, une enquête cryptozoologique qui réussit revient de fait dans le champ de la zoologie classique. D'ailleurs, quasiment toutes les enquêtes de cryptozoologie réussies l'ont été grâce à des témoignages de populations locales qui connaissent déjà l'espèce en question depuis longtemps. Mais la plupart de ces enquêtes ont été faites dans un contexte de colonisation et c'est un prix cher payé pour un okapi. En somme, il serait judicieux de regarder les témoignages autochtones avec un œil curieux et critique. Gardez en tête que quand on prend le temps de comprendre les gens, de les respecter eux et leurs récits, on en apprend énormément sur notre environnement et on peut mieux le protéger.
Et donc là, on parlait plutôt d'enquêtes qui se réalisaient au 19e et 20e siècle. Donc là, c'est plutôt tourné autour de monstres imaginaires et de quelques réussites quand même. Mais donc aujourd'hui, au 21e siècle, comment se porte la pratique ?
Alors c'est bien résumé. Et aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, des appareils photo à haute qualité dans chaque téléphone et des drones qui peuvent parcourir des étendues massives, on n'a pas trop avancé. Sur le Yeti, le monstre du Loch Ness, la bête du Gévaudan, ou alors, vous me préviendrez, je suis mal informé. Bernard Heuvelmans, lui, il est mort en 2001 et il n'aura jamais mis la main sur un seul spécimen. Les chercheurs de Bigfoot aux États-Unis ont si peu de preuves qu'ils en sont rendus à penser que le grand singe est doté de pouvoirs magiques d'invisibilité ou croit des fausses preuves manigancées par des fraudeurs. C'est véritable, il y a eu des cas comme ça. Bien que la cryptozoologie ait pu apporter des découvertes assez jolies, la discipline tend à revêtir certains aspects des pseudosciences et même parfois des pratiques complotistes. Je trouve malgré tout que la science peut prendre exemple sur la curiosité, l'interdisciplinarité et le sens de la persévérance dont ont fait preuve et font preuve encore les adeptes de la cryptozoologie. Et ça, c'est tout sauf absurde.
Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez en savoir davantage sur les pratiques scientifiques, je vous invite à aller écouter une ancienne émission du Labo des Savoirs qui a été diffusée l'année dernière sur la crise de la réplicabilité. Pierre, tu nous as fait voyager aux frontières du mythe et de la réalité avec la cryptozoologie. Et pour conclure cette partie, Aurore nous a sélectionné quelques questions sur les prix Ig Nobel en lien avec les animaux et des animaux bien réels cette fois-ci.
On commence tout de suite avec cette première question. Laquelle de ces trois études sur les chauves-souris n'a pas été lauréate d'un prix Ig Nobel ? Première, catégorie psychologie. Étude qui leur a appris à faire la différence entre des tableaux de Picasso et ceux de Monet. Deuxième possibilité, catégorie biologie. Étude sur la pratique de la fellation chez les chauves-souris. Oh. Troisième réponse possible, en catégorie aviation. Étude sur l'effet de la consommation d'alcool chez les chauves-souris et comment elle affecte leur vol, l'écolocalisation et augmente pour elle le risque d'accident.
Les fruits fermentés, il y a de l'alcool dedans. Donc.
Alors laquelle de ces études n'a pas eu de prix Ig Nobel ?
Je dirais bien que c'est la première qui a eu de
Picasso.
Ig Nobel.
Ouais, je mise sur celle-ci aussi.
Ouais, moi je vais dire la deuxième pour dire autre chose.
Alors c'était en effet la première, mais elle a bien obtenu un Ig Nobel, mais c'était des pigeons. Alors, je passe à la question suivante, catégorie physiologie. Plusieurs mammifères peuvent respirer à travers leurs intestins en utilisant leur anus. Vrai ou faux ?
Vrai.
Je vais dire faux.
Alors, en effet, c'est vrai. Alors, je suis quand même désolée de vous l'annoncer, mais c'est une étude qui a été pratiquée sur des rongeurs et des porcs suite à la pandémie de Covid-19 et surtout à cause de la forte demande et pénurie en respirateurs. Les chercheurs, principalement japonais, ont montré qu'on pouvait réduire les insuffisances respiratoires sévères en détournant, entre guillemets, l'intestin comme organe respiratoire accessoire en y insérant une forme liquide d'oxygène, en fait. Et alors, dernière question sur la catégorie animaux. En 2005, Claire Rind et Peter Simons, des chercheurs anglais de l'université de Newcastle, ont étudié l'activité d'un animal pendant qu'ils regardaient le film Star Wars. Je me tourne vers Adam. De quel animal s'agissait-il ?
Waouh, je suis désabusée, je n'ai pas la réponse. Je vais dire un ours.
Un hamster ?
Un chat.
La sauterelle. Et ils ont choisi Star Wars parce qu'il leur fallait un film avec des stimuli riches et variés. Et la sauterelle a même des scènes préférées, comme par exemple lorsque des vaisseaux foncent vers le spectateur. Et les scientifiques se sont inspirés du réseau neuronal des insectes pour concevoir des systèmes anti-collision en intelligence artificielle pour les voitures.
Faisons une pause dans cette émission magazine spéciale Sciences Absurdes en écoutant Fish Mazari de Lina McCool.
نزل راسك مش رح ترفع كاسك رح تعلى نفلاسك منهدد من خوفك انت وكل اصحابك من سكت حسابك من قيد اعمالك شادو بان لبوستاتك وكل ستورياتك من حقق مع عمك وابوك وابن خالك من مرقش ميزانية من مرق سلاح الصينية مفرق من عنصر الحرب هاي نفسية تفكرها أهلية تفكرها دينية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر من ديمقراطية بتفرق بتعنصر بنفسك بتفكر من ديمقراطية أيوة يلا كل عيني على الكاميرات ما في بجيابنا شكلين لمين أصلا كل الاستعراض عايش الفخامة على دين كوكا كوكا كلنا منعد بعبارات ولا حدا فينا بكتب كلمتين ويدلما لما الدنيا ماشي ترلالا ديقة ديقة لما الدنيا ديق يا ربي ليه مفيش فش فش مفيش فش فش مصاري مفيش فش فش مفيش فش فش مصاري مفيش فش فش مفيش فش فش مصاري ما فيش 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 ما فيش 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 مصاري ما فيش 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 ما فيش 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 مصاري ما فيش 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 ما فيش 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 مصاري والحزين بس روحي انا طز انا وانت مين بتشجع على الفوز بالاخر احنا متشابهين دايرين لي على الشوز والصحرا قحلة قحلة صحرا قحلة الناس عطشة عطشة الناس عطشة المي سحلة بتروي الارض الخضرة
بيطلع منها سلفي بنت
ايوه يلا كل عيني على الكاميرات ما في بجيبنا شكلين لمين اصلا كل الاستعراض عايش الفخامة على دين كوكا كوكا كلنا منعيد بعبارات ولا حدا فينا بيكتب كلمتين والدليما لما الدنيا ماشي ترلالا ديقة ديقة لما الدنيا ديقة يا ربي ليه
مفيش مصاري
دولي مستقلة داخلية خايفة من النكمة اللي بتبسى انا فهم المسؤولية عارفة انه المطارات مش رح تكون لي ودودية بس وقعنا طيارات لازم نوصل العالمية دولة ناسا من اساسا ما توليش افكار وهمية مش رح نوصل امتيفيز كمان انغامي عالمية منقدر نعمل ستوريزة كانت ايدنا فولازية ما يهمك ما فيش مصاري
قومي اطلعي لا science toutes les sciences au labo des savoirs.
C'était Ish Mazari de Lina Makoul. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur les sciences absurdes à l'occasion du 1er avril. À l'été 2025, j'ai eu l'occasion d'être animatrice pour les Petits Débrouillards, une association d'éducation populaire à la culture scientifique et technique que je vous recommande d'aller voir. J'ai donc pu explorer avec des jeunes les sciences derrière nos activités du quotidien. Comment fonctionne la machine à laver ? Comment ça essore le linge, pourquoi le savon ça lave, etc. Utile pour rappeler que les sciences ne sont pas seulement des choses très complexes et dans un monde très loin de nous, au contraire, qu'on peut en trouver tout autour de nous. Avec les jeunes avec qui j'ai travaillé, on ne prétend pas à recevoir un prix, mais des scientifiques se sont attelés à étudier le mystère qui se trouve dans les gestes les plus simples de notre quotidien. N'est-ce pas, Aurore ?
J'ai appelé cette catégorie « petits ennuis du quotidien ». Première question de cette catégorie. Le prix Ig Nobel de 1996 de physique a été décerné à un chercheur anglais qui a démontré que le pain grillé tend effectivement à tomber sur le côté beurré. Ce phénomène est plus connu sous un autre nom, lequel ?
La loi de Murphy ?
Exactement. Très a posteriori, Edward Murphy et ses deux collaborateurs ont reçu le prix Ig Nobel d'ingénierie pour la naissance de la fameuse loi de Murphy, dont le principe est, je cite, s'il y a plusieurs manières de faire quelque chose et qu'une de ces manières peut aboutir à une catastrophe, alors quelqu'un l'emploiera. Question suivante. Imaginez, vous rentrez chez vous après une grosse journée et rien ne vous ferait plus plaisir qu'une bonne douche bien chaude. Mais c'est sans compter sur le rideau de douche qui n'arrête pas de venir se coller contre vous. C'est super énervant, n'est-ce pas ? À votre avis, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
On se douche avec de l'eau chaude, donc ça réchauffe l'air, l'air chaud monte, et du coup, il aspire le rideau de douche.
Alors, c'est une des hypothèses qui a été testée, mais c'est pas ça. Quand on prend une douche froide, ça le fait aussi.
Il n'y a pas une partie d'électromagnétisme ?
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
On n'est pas très loin. David Schmidt de l'université du Massachusetts a modélisé la douche de sa belle-mère. C'est ce qui lui a valu l'Ig Nobel de 2001 en physique. Et il a trouvé le petit coupable. C'est un effet qu'on appelle l'effet Coand. C'est la tendance d'un flux de liquide à être attiré vers une surface proche. Vous savez, quand il y a un robinet qui coule, vous approchez votre doigt, l'eau elle va venir vers vous, c'est ça. Et dans le cas du rideau de douche agressif, les rôles sont inversés. C'est le rideau de douche qui est attiré par le flux de liquide. Alors, en 1999, deux Sud-Africains ont obtenu le Ig Nobel de la paix pour l'invention d'un antivol pour voitures tout à fait innovant. De quoi ont-ils équipé les véhicules ? Alors, je vous donne juste un petit indice pour orienter vos réflexions. En général, l'Ig Nobel de la paix est très souvent décerné de manière sarcastique.
Est-ce qu'il y a une histoire d'électricité ?
Non.
Ok.
Une grenade, genre tu ouvres la porte et ça découpille la grenade.
Alors, t'es pas si bon que ça.
Ça pousse des cris, non, c'est pas ça.
C'est quelque chose d'assez létal.
Je m'imaginais un truc qui scie les freins quand la voiture s'est fait voler.
Non, c'était des lance-lames. Voilà. Du coup,
la violence.
Le produit a été retiré du marché en 2001.
Ah mince.
Voilà, parce que éthiquement, c'était un petit peu.
C'est un peu léger.
La réglementation.
Dans la droite lignée de ces prix Ig Nobel, des scientifiques nostalgiques de leur enfance voulaient jouer à nouveau ce jeu où il faut mettre des triangles dans un trou en forme de triangle, des ronds dans des trous en forme de cercle, mais plus particulièrement, Jérémy, tu as pu voir qu'il y a des scientifiques qui cherchent à placer le plus de carrés dans un seul carré, c'est ça ?
Exactement, oui. Alors les méandres d'Internet m'ont fait tomber sur un appareil qui permet la confection de gaufres en 17 petits carreaux. Alors de quoi changer des configurations traditionnelles ? En 16. Incroyable, n'est-ce pas ?
Oui.
Oui. Oui.
Vous êtes acclamant.
Ah là, j'ai vraiment envie de dire, waouh, quelle révolution !
Et après cet étonnement, deux sentiments arrivent. Alors, premièrement, la déception, puisqu'en fait, ce gaufrier était une image générée par une IA.
Ah. Oh.
Et puis le malaise, parce que cette configuration optimale à 17 carreaux est en fait un gros bazar.
Mais on entend quoi par configuration optimale à 17 carreaux ?
Alors, cette image a permis de découvrir un problème de maths qui est aujourd'hui encore un gros casse-tête. On pourrait le présenter ainsi. On a une certaine quantité de carrés de 1 cm de côté. Comment les dessiner sur une feuille de manière à former le plus petit carré qui peut tous les contenir ? Alors, on va prendre peut-être quelques exemples pour visualiser. Donc, j'ai 9 carrés de côté 1 cm. Quel est le plus petit carré qui peut tous les contenir ? Est-ce que vous avez des idées ?
9 cm carrés, donc...
3 par 3.
Exactement. Si on place nos carrés effectivement en 3 lignes et 3 colonnes bien alignées, on peut les ranger dans un plus grand carré de 3 cm. Donc c'est la même logique pour un groupe de 4 carrés. On fait 2 lignes de colonnes, 16 carrés, 25 carrés, etc. Quand on a un nombre de carrés qui s'exprime comme le produit de deux fois le même chiffre, bon, c'est relativement simple. Les choses se compliquent un peu dans les autres situations. Si maintenant, au lieu d'avoir 9 carrés, j'en ai 8, en fait, ce sera un peu la même chose, puisque l'espace qui était pris par le 9e, qu'on vient de retirer, ne pourra pas être mieux optimisé. Et donc, c'est assez proche pour les autres configurations qui collent à la liste que j'avais commencé à établir, donc 4, 9, 16, 25.
Et du coup, tout à l'heure, on parlait d'une configuration à 17.
Ah oui, revenons à notre histoire de gaufrier. Vous avez votre gros carré, d'accord ? Imaginez que vous avez un petit carré dans chacun des angles. Donc, il y a 2 petits carrés qui vont être collés directement de part et d'autre à l'angle en haut. Pareil à l'angle à droite, comme 2 petites équerres. Il y a un carré au centre en bas, entre les 2 carrés du côté bas. Et après, les 8, ils sont posés un peu n'importe comment. Voilà. C'est presque un quadrillage, mais c'est comme si on avait un peu tassé et poussé ensemble. Et il y a 2 carrés qui sont complètement décalés et qui n'ont pas de symétrie par rapport aux autres. Dans certaines configurations, comme ces 17 carrés, il y a ce genre de chaos qui apparaît. Du moins, l'arrangement ne présente pas de symétrie, il y a des rotations, des décalages. Ça permet toutefois de faire rentrer nos 17 carrés dans une clôture de 4,67 cm de côté. Cette configuration optimale a été démontrée en 1997 par John Bidwell, qui était alors étudiant en mathématiques. Et quand on fait le calcul, il y a environ 22% de l'espace qui est vide. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête ici. On ne cherche pas à optimiser le rangement, mais le vide. Et c'est assez contre-intuitif, optimiser le vide demande parfois des placements erratiques, voire diaboliques. Et malgré tout, il y a une certaine logique qui se dégage à grande échelle. On peut classer ces différentes configurations à la manière d'un tableau périodique, et il y a des éléments, des motifs, qui se répartissent avec régularité dans ce tableau.
Mais mis à part faire des gaufres mieux nappés de sirop, je vois pas trop à quoi ça sert.
Alors, à quoi cela sert-il? On pourrait même se poser d'autres questions. Comment est-ce qu'on s'y prend pour démontrer ce genre de résultats mathématiques? Est-ce qu'il faut être fort en Tetris ou fort en déménagement? Alors, quand on cherche un peu sur le web, c'est finalement pas tant ces questions-là qui émergent, mais on trouve une quantité foisonnante de détournements, de cartoons humoristiques et de geekeries en tout genre. Vous pouvez par exemple vous offrir un puzzle en 3D de cette configuration et essayez vous-même de reproduire cet optimal. Alors, est-ce que c'est pas ça finalement un bon sujet de science absurde, suffisamment tangible pour qu'on puisse se le représenter, mais favorablement abstrait pour qu'on puisse en faire n'importe quoi? Ce que je retiens de cette histoire, c'est que optimiser se fait toujours avec des critères bien précis, minimiser le vide peut amener à organiser le plein de manière contre-intuitive et tout dépend des libertés qu'on se laisse. Cette leçon veut bien une gaufre, sans doute, et je crois qu'il y en a encore au studio.
Merci Jérémy, merci beaucoup,
merci pour les gaufres. Et d'ailleurs, peut-être qu'on vous laissera la recette de Jérémy sur le site. Si les gaufres, ça se déguste à n'importe quelle saison de l'année, Cécile, toi, tu voulais nous parler d'un légume bien printanier en ce début d'avril, les asperges. Alors les asperges, c'est un légume fin, fragile, mais surtout très cher, il faut le dire. Mais ça a surtout éveillé des passions scientifiques que je n'aurais jamais soupçonnées.
Eh oui Julie, savez-vous de quoi parlent les scientifiques quand ils sont à table? Ça pourrait parler de météo, d'actualité ou de loisirs comme des gens ordinaires. Eh bien non, les scientifiques, entre eux, parlent d'odeur de pipi. Vous aussi ça vous dégoûterait? Eh bien pas moi.
Mais on est ravis de le savoir Cécile, mais du coup c'est quoi cette histoire d'odeur de pipi et c'est quoi le lien avec les asperges?
C'est une histoire fabuleuse. L'histoire de quelques scientifiques américains et européens qui se retrouvent autour d'un bon repas lors d'un congrès en Suède en 2010, quand soudain, l'une d'entre eux, face à la présence d'asperges dans son assiette, évoque l'odeur caractéristique de son pipi suite à l'ingestion de ses succulentes pousses vertes. S'ensuit une conversation pleine d'échanges et d'incompréhension pour ceux qui n'ont pas eu cette délicieuse expérience post-asperge. En bon scientifique, nos protagonistes essayent de comprendre d'où viennent ces différences interpersonnelles. Et cette fameuse conversation conduira à la publication d'un article scientifique dans un journal reconnu, le British Medical Journal, en 2016. Et oui, ce n'est pas parce qu'un sujet est drôle qu'on ne peut pas le traiter sérieusement. Alors, comme les scientifiques avant nous, je vais vous poser la question. Est-ce que vous aussi, quand vous mangez des asperges, votre pipi change d'odeur?
Tout à fait.
Je déteste les asperges, je n'en mange jamais.
Pareil, j'aime pas ça du tout.
Et j'en mange pas assez souvent pour renifler mon pipi après.
Dans la population générale, seule une partie des gens sentent cette odeur. Et ça agite le monde scientifique depuis presque 100 ans. Sujet traité plus ou moins sérieusement, justement. En effet, les premières études avaient des méthodologies douteuses. Dans l'étude de Lison en 1980, par exemple, ils ont testé l'urine d'une seule personne qui ne sent pas cette odeur par plus de 300 nez. Alors, ok, on a beaucoup de testeurs, mais un seul échantillon, c'est pas très robuste. Offenberg et collègues, en 1983, demandaient aux testeurs de faire la différence entre de l'eau et du pipi asperge dilué dans de l'eau. Pour Sugarman et Nealon, en 1985, les testeurs devaient dire s'ils sentaient quelque chose d'inhabituel dans les échantillons de pipi asperges proposés. Dans ces deux dernières études, le problème étant que les testeurs risquaient des faux positifs en identifiant des odeurs de pipi plutôt que de pipi asperges. Une autre limitation de ces premières études réalisées est que les personnes sont habituellement testées soit pour leur capacité à produire l'odeur, soit leur capacité à la sentir, mais pas les deux à la fois.
Effectivement, tout ça, ça paraît pas très robuste scientifiquement. Mais est-ce que ça s'est amélioré depuis?
Il a fallu attendre 2010 pour voir apparaître un article qui prenne le problème de façon globale. Levin Pelchat et associés ont étudié en parallèle la variabilité des composés odorants dans le pipi, mais également la capacité de l'individu à sentir cette odeur ou non. Concernant les composés odorants, la tâche est complexe, car il n'y a pas de consensus scientifique sur là où les molécules qui causent cette odeur avec une vingtaine de composés identifiés. Il est donc trop compliqué d'utiliser leurs mesures dans l'étude. Levin, Pelchat et associés ont donc obtenu du pipi nature, le contrôle négatif, et du pipi asperge de chacun des 37 participants de l'étude. Ils ont ensuite fait sentir ces deux échantillons aux propriétaires du pipi, mais également à des testeurs, en leur demandant de désigner lequel des deux échantillons était le pipi asperge. Résultat, 8% des sujets ne produisent pas, ou dans des quantités indétectables, l'odeur particulière, et 6% des sujets ne sont pas capables de la détecter. Les sujets ont également été génotypés, donc leur ADN a été analysé, et l'incapacité à sentir l'odeur du pipi asperge semble liée à une mutation près d'un gène codant pour un récepteur olfactif. Logique. Même si la méthodologie de cette étude est plus fiable que les autres, son désavantage vient du faible nombre de participants. En effet, difficile de déduire à grande échelle quelque chose observé sur 37 personnes. D'autres études ont donc plutôt misé sur le nombre de sujets plutôt que la méthode, en utilisant des bases de données de sujets dont l'ADN a été étudié. On en revient à nos fameux scientifiques qui parlent de pipi à table. Sarah Markt et ses associés ont donc profité d'un questionnaire de suivi des sujets présents dans deux cohortes pour ajouter parmi les questions posées, celle sur l'odeur du pipi. Précisément, après avoir mangé des asperges, remarquez-vous une forte odeur caractéristique dans votre urine? Ces deux cohortes totalisaient près de 7000 sujets. Et donc, 58% des hommes et 62% des femmes déclaraient ne pas ou peu remarquer cette odeur. D'un point de vue génétique, cette étude a confirmé les résultats de l'étude de Levin-Pelcha, mais également d'une autre étude similaire de 2010 par Erickson sur 4700 sujets, associant l'incapacité à sentir le pipi asperge à une ou des mutations associées à des récepteurs olfactifs. Malheureusement, ce genre d'étude est très peu financé.
Ben oui, parce que j'imagine qu'il est plus facile de trouver des financements pour la recherche sur des maladies graves.
Et oui, ça peut expliquer les problèmes de méthodologie. C'est dommage car la recherche trouve souvent par le hasard. Les résultats obtenus dans une étude a priori anodine pourraient être utiles à la découverte de thérapies pour des maladies graves. En tout cas, malgré l'inconvénient odorant, l'asperge, c'est bon pour la santé. Riche en fer, zinc, folate, fibres, vitamines A, E, C. Alors, ne vous privez pas, mais tirez la chasse.
Merci Cécile pour ta chronique. Et donc j'ai compté, tu as dit 18 fois pipi dans ta chronique. Bravo. Wow. Je pense qu'on peut peut-être égaler le Floodcast. Alors jusqu'à présent dans cette émission, on a beaucoup parlé de sciences techniques, de biologie, de zoologie, de géométrie avec les gaufres. Mais on a aussi des exemples, heureusement, en sciences humaines et sociales. Pour les sciences absurdes, et Victor nous a choisi un exemple en sociologie et pas n'importe lequel.
Exactement Julie. Les expériences sur le pipi ou le son mort, c'est bien marrant. Mais on va maintenant faire un peu de sciences sociales de manière sérieuse, s'il vous plaît. La référence de cette chronique, c'est un article sorti en novembre 2025 dans la revue Nature Mental Health Research. Donc petit aparté pour préciser qu'il s'agit d'une des revues les plus prestigieuses en sciences, dont on est sur du très très lourd. L'article s'intitule « Unexpected Events and Prosocial Behavior, The Batman Effect » ou en français « Événements inattendus et comportement prosocial, l'effet Batman ». Alors le rapport entre un super-héros déguisé en chauve-souris et la sociologie des comportements humains d'empathie, j'y viens. D'abord, le comportement prosocial, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement un comportement qui témoigne d'un souci de l'autre, d'empathie envers des personnes inconnues en difficulté. Aider une personne à trouver son chemin, ou bien monter le sac d'une grand-mère dans un escalier par exemple. Le but de l'article était de déterminer si la venue d'un événement improbable au sein d'une routine pouvait augmenter la tendance d'inconnus à adopter des comportements prosociaux. Comme tout scientifique sérieux, les auteurs de l'article ont mis en place une étude de terrain pour tester leurs hypothèses. Dans la condition contrôle, une femme enceinte prend le métro et le comportement prosocial qu'on étudie, c'est de savoir si des inconnus vont lui laisser leur place assise ou pas. Dans la condition test, même femme enceinte dans le métro, mais avec un élément perturbateur, un complice habillé comme Batman rentre en même temps dans la rame de métro. Et je vous en supplie, allez voir l'article au moins pour voir cette photo d'un scientifique déguisé en Batman dans une rame bondée. C'est une véritable figure pour montrer leur protocole, c'est à mourir de rire. Et donc la conclusion de l'étude, si seulement 37% des passagers laissent leur place à la femme enceinte dans la condition contrôle, ils sont en revanche près de 67% à le faire si Batman est dans le métro. La probabilité de réaliser une bonne action est presque multipliée par 2 par la simple présence de Batman. Et c'est ça que les auteurs appellent le Batman Effect. Ce qui est vraiment marrant, c'est que lorsqu'on demande a posteriori aux personnes qui se sont levées pourquoi elles l'ont fait, la plupart répondent qu'il s'agit de normes sociales ou d'éducation, mais près de 40% disent n'avoir pas remarqué la présence de Batman. En mode, non, je vais laisser la place par pure gentillesse et pas du tout par peur de me faire taper dessus par le monsieur en noir là-bas.
Mais du coup, là, c'est quoi le lien entre le super-héros et la sociologie ?
vers la véritable sociologie derrière tout ça, c'est qu'une perturbation de l'environnement local pourrait augmenter la capacité d'attention des humains. Lorsqu'un événement improbable vous sort de votre routine métro-boulot-dodo, vous êtes plus attentif à votre environnement et plus prompt à détecter des situations où des personnes pourraient avoir besoin de votre aide. Parmi les autres hypothèses avancées pour expliquer les faits, les auteurs proposent ainsi qu'une figure de super-héros associée à des valeurs fortes d'entraide ait pu augmenter la capacité d'action des participants, comme si la simple vue de Batman vous faisait dire « Moi aussi, je peux être un super-héros du quotidien et faire des petits gestes pour aider les autres ». Si cette étude m'a beaucoup fait rire, elle porte aussi un message positif. Les auteurs lancent des pistes pour de futurs plans d'urbanisme dans lesquels des perturbations positives pourraient augmenter la sensibilité des individus à leur environnement immédiat et favoriser les comportements d'entraide en ville. En attendant, si vous voulez avoir une place assise dans le tram à Nantes, assurez-vous d'avoir un ami déguisé en Batman ou Superman dans la rade avec vous et le tour est joué. C'est démontré scientifiquement.
Merci Victor. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, si vous voulez reproduire cette expérience à l'occasion du 1er avril ou même du carnaval qui a lieu aussi en avril, n'hésitez pas. On écoute tout de suite Sugarcane Funk de Saline et on revient juste après pour parler de science absurde au cinéma.
De la recherche scientifique au Labo des Savoirs.
C'était Sugarcane Funk de Saline. Nous sommes de retour à l'écoute du Labo des Savoirs pour cette émission magazine avec les bénévoles sur les sciences absurdes à l'occasion du 1er avril. Alors juste avant la pause, on parlait de Batman. Si porter une cape de super-héros peut nous rendre plus altruistes, que dire des expériences scientifiques qui, elles, semblent tout droit sorties d'un mauvais scénario de film de science-fiction ? Le cinéma adore jouer avec la science, parfois pour le meilleur, nous émerveiller ou nous faire hurler de rire, mais aussi parfois pour le pire, et c'est justement ce dont tu voulais nous parler, Adam.
Complètement. Alors, quand on regarde un film d'horreur, c'est pas rare d'avoir des réflexions du style « Nom de Dieu de merde, mais personne n'a d'instinct de survie dans ce putain de film, ou c'est comment ?» On se demande si on aurait fait mieux, si on n'aurait pas fait un sacré protagoniste de slasher. C'est un genre de film d'horreur où un groupe de jeunes adultes ou ados doivent échapper à un tueur masqué. Bah finalement, dans la science, c'est un peu pareil. Alors dans la science des films, c'est encore pire. Donc on commence fort comme exemple avec un film de 1963, « Dr. Jerry et Mr. Love ». Une comédie SF écrite et réalisée par Jerry Lewis, qui est un comédien très connu de l'époque. Comme le nom l'indique, on est sur une parodie du très célèbre Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Dans ce film, on a notre personnage principal, Lucius Kelp, professeur de chimie, timide mais très très intelligent. Alors Lucius, en bon prédateur qu'il est, décide d'utiliser ses connaissances en chimie afin de créer un élixir et de se transformer en homme séduisant et ainsi gagner le cœur d'une de ses élèves dont il est passionnément amoureux. Voilà, vous comprenez pourquoi je l'ai appelé prédateur. Et du coup, évidemment, parce qu'on est dans un film de Jerry Lewis, ça dérape. Et il se crée une double personnalité appelée Mr. Love, un playboy séducteur, égocentrique et très 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 misogyne. Donc, basiquement, dans cette adaptation, le gentil Dr. Jekyll devient un professeur de chimie obsédé par une de ses élèves et Mr. Hyde devient un influenceur masculiniste. Donc, je suis très curieux de savoir comment cet élixir est fabriqué parce qu'évidemment, c'est pas précisé dans le film. Et ça me fait un peu penser aux concubines chinoises qui mettaient des produits hallucinogènes dans leurs parfums pour paraître plus attirantes. C'est raconté dans le livre « Mémoire d'un eunuque dans la cité interdite » de Shi Dan, que je vous conseille. C'est pas un ouvrage scientifique, mais c'est très très cool. Jerry Lewis a inventé ce concept, mais pour les mascus. Mais après tout, ce film a été écrit par un humoriste américain des années 50, très connu, très riche, très misogyne.
Et oui, du coup, vu que c'est une parodie de base, on s'attend à ce que ce soit absurde et ridicule, donc sans surprise. Et à avoir des traits hyper clichés exploités à l'extrême pour faire rire, enfin, pas tout le monde. Est-ce que tu aurais d'autres exemples à nous donner ?
Oui, parlons de la saga Jurassic Park et leur merveilleux enchaînement d'idées de ressusciter les plus grands prédateurs du Jurassique, puis dans les autres films de les exposer au public dans une espèce de parc planète sauvage en plus dangereux et en moins raciste. Je vais me focus spécifiquement sur Jurassic World, hein, vous savez celui sorti en 2015 où il y a Chris Pratt qui fait de la méditation avec des raptors. L'histoire de Jurassic World se passe donc 20 ans après les événements de Jurassic Park. La fameuse île Isla Nublar a été réaménagée en parc d'attractions, centrée sur l'exposition de dinosaures vivants cloné à partir d'ADN fossilisé. Donc sous la tutelle d'un milliardaire indien, Simon Masrani, le plus grand parc à thème de l'histoire est ouvert et accueille plusieurs millions de visiteurs par bateau tous les mois. Donc ce film encapsule très bien l'idée du capitalisme. Ah, on a découvert de l'ADN de dinosaures fossilisés en parfait état sur une île au large du Costa Rica. Ouvrons un Disneyland. Et ce n'est pas la pire idée qu'ils ont eue dans ce film, parce que mine de rien, le parc paraît assez fonctionnel et très sécurisé. Si tu mets ta logique de côté pendant 2 secondes, ça tient la route. Mais évidemment, c'est mal connaître le monde merveilleux du blockbuster américain. Les visiteurs sont blasés. Les dinosaures classiques, bon, ça les ennuie, quoi. C'est vrai, quoi. Regarder des mégalodons dans un bassin de la taille d'une piscine municipale ou des diplodocus faire des pirouettes pour faire plaisir à Jason, JC et leurs 3 enfants, Jeremy, Jebediah et Joyce, entre 2 hot dogs, c'est grave surfait. On s'ennuie, un peu d'audace que diable. Les scientifiques du parc se mettent donc à l'ouvrage. Top Top, création de 2 femelles dinosaures d'une nouvelle espèce, créées en combinant différents ADN, parce que c'est comme ça que ça marche. L'Indominus Rex vient au monde. Plus grand, plus rapide, plus intelligent et surtout plus féroce que le très classique T-Rex du parc original. Capable de se camoufler et de modifier sa température corporelle. Pourquoi ? Parce que c'est cool ! Vous voulez savoir comment ça se passe ? 16h34, l'Indominus Rex est créé. 16h40, l'Indominus Rex s'est échappé en se camouflant dans le décor de jungle de sa cage et en supprimant sa température corporelle pour échapper au détecteur et faire croire que son enclos était vide. Et il ouvre tous les enclos du parc pour libérer ses collègues, provoquant une catastrophe sans précédent et des dizaines de milliers de morts en l'espace de 10 minutes. Bien sûr, notre seul espoir face à un lézard géant super intelligent et capable de se rendre littéralement invisible, c'est Chris Pratt et sa grosse mitraillette.
Je suis vraiment étonnée que tu ne trouves pas ça top comme idée de créer un dinosaure caméléon dans un parc naturel composé à 80% de végétation. Est-ce qu'il y a d'autres exemples d'expériences scientifiques qui ont marqué ta culture cinématographique ?
Alors, pour Jurassic World, évidemment, encore une fois, merci le capitalisme, hein, et très hâte du communiqué de presse pour expliquer le fiasco. Une dernière chose qui m'est venue en tête, donc je termine cette chronique avec un dernier petit exemple. Et pas des moindres, puisqu'on va parler de Robocop. Sorti en 1987, réalisé par Paul Verhoeven, ce film raconte l'histoire d'Alex Murphy, un policier finissant gravement amputé après une tentative de meurtre. Ce qu'il reste de son corps est récupéré par la société OCP, qui le transforme en un être 50% homme, 50% robot, 100% flic. Il se lance donc dans une quête de vengeance et de violence policière avec un exosquelette qui ferait pâlir de jalousie le costumier d'Hitler. Alex Murphy est donc ressuscité dans un corps cybernétique, cybernétique qui veut dire science des communications et de la régulation de l'être vivant et de la machine. C'est un truc que les réalisateurs adorent placer dans les films sans savoir ce que ça veut dire. Il devient donc très résistant aux armes conventionnelles et voit sa force augmenter. Sa mémoire est purgée de ses anciens souvenirs et remplacée par un programme informatique dernier cri et notamment un système de ciblage pour le tir et faire du contrôle au faciès de façon encore plus efficace. Voilà, parce que les flics, c'est ça, c'est les gros flingues. Bien que l'aspect body horror du film soit très très intéressant, cette expérience, c'est littéralement le rêve mouillé de Chombard de Lowe, candidat Les Républicains à l'élection municipale de Nantes en mars 2026. Un keuf qui fonctionne 24 heures sur 24, qui n'a besoin de ni de manger ni de dormir, doté d'un énorme pistolet, très fort, très obéissant, très raciste. Bref, un keuf comme on l'aime. Personnellement, je ne les aime pas. Toutes les expériences scientifiques ne sont pas bonnes à faire. Mention honorable à tout ce que je n'ai pas pu caser dans cette chronique. Le score social de Black Mirror, où on attribue des notes aux humains. Les clones des souterrains de Us, Umbrella Corp et le Virus T, spécifiquement dans les films avec Mila Jovovich. Je vous invite à les voir, c'est des chefs-d'œuvre cinématographiques. Merci d'avoir écouté cette chronique. Moi, après avoir regardé Robocop, je m'en vais purifier mon âme d'antifasciste en buvant des bières au goût imprononçable.
Merci beaucoup Adam pour ce billet d'humeur cinématographique. Pour conclure cette émission sur les expériences scientifiques drôles, absurdes ou loufoques, Aurore, tu avais quelques questions en réserve.
Eh oui, ceux-là, je les ai mis dans le hors catégorie. Première question. En 2007, l'Ig Nobel de chimie a été décerné à un chercheur japonais qui a extrait un arôme à partir de bouse de vache. De quel arôme s'agit-il ? Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas de l'arôme caca.
Est-ce que c'est de l'herbe ? Parce qu'à force de manger de l'herbe...
Non, ce n'est pas de l'herbe.
J'adorerais un truc genre vanille de Madagascar.
Bah, figure-toi que c'est la vanilline. Donc, arôme et parfum de vanille. Donc, la prochaine fois que vous mangez un yaourt à la vanille, bah, pensez-y. Question suivante. Est-ce que vous savez si on a plus de poils dans la narine gauche ou dans la narine droite?
Gauche.
Mais surtout, moi, j'ai surtout peur. Il y a eu des cobayes humains qui se sont prêtés à l'épilation narine par narine.
Non, mais moi, c'est chiant. J'ai la testo. J'ai plus de poils.
Alors, en fait, on a à peu près autant de poils dans la narine gauche que dans la narine droite. Et ça a été mesuré dans une étude qui a été pratiquée sur des cadavres et qui a reçu l'Ig Nobel de médecine de 2023. Alors en fait, pour vous donner le contexte, les personnes qui souffrent d'alopécie, de perte de poils et de cheveux, elles ont aussi souvent également des problèmes respiratoires, elles attrapent pas mal de maladies. Et en fait, les chercheurs voulaient vérifier si la perte de poils dans le nez pouvait être la cause de ces maladies. En 2000, le chercheur néerlandais André Geim a reçu le prix Ig Nobel de physique pour avoir fait léviter quelque chose avec des aimants. Qu'a-t-il fait léviter ?
Est-ce que c'est des animaux ?
Oui, c'est un animal.
Okay, je crois savoir ce que c'est.
Un chat.
Non, c'est pas un chat.
Okay. Un escargot.
Alors, en effet, il s'agissait d'une grenouille. Et pour info, ce même chercheur a reçu en 2010 le prix Nobel, le vrai, de physique, pour ses travaux sur le graphène. Ce qui fait de lui le seul primé de l'Ig Nobel qui a également reçu un vrai prix Nobel.
La classe.
Magnifique question pour conclure cette émission. Merci Aurore. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Cécile, Elia, Adam, Victor, Pierre et Jérémy pour leur chronique. Merci à Aurore aussi pour ce super quiz. Une émission préparée par Julie et Merlin et réalisée par Julie et Merlin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle émission.
Vous aimez Radio G ? Soutenez-la. En faisant un don à notre association reconnue d'intérêt général, vous contribuerez à son développement et à la réalisation de ses nombreux projets culturels, radiophoniques et d'éducation aux médias. Radio G compte sur vous. Rendez-vous sur radio-g.fr dans la rubrique « Faire un don ». Votre participation sera déductible de vos impôts. Alors, n'hésitez plus.
Le quart d'heure angevin.
Chaque samedi.
14h sur Radio G.
Local.